Chapitre 16. Le champion du monde. Cette fois, il ne faisait pas aussi sombre que je m'y étais attendu, à l'intérieur du bois. Des lueurs et des reflets projetés par la lune brillaient à travers les feuillages et donnaient à l'endroit un aspect froid et sinistre. « J'ai apporté une torche pour chacun de nous, » a dit mon père. « Nous en aurons besoin un peu plus tard. » Il m'a tendu une de ses lampes de poche en forme de stylo. Je l'ai allumée et il en a jailli un mince rayon de lumière d'une clarté surprenante. Quand je l'ai promené devant moi, on aurait dit qu'une longue baguette magique d'un blanc éclatant éclairait les arbres. Je l'ai aussitôt éteinte. Nous avons à nouveau marché vers la clairière où les faisans avaient mangé les raisins secs.
Ce sera la première fois dans l'histoire du monde que quelqu'un aura essayé de braconner des faisans perchés dans les arbres, a dit mon père. N'est-ce pas extraordinaire de pouvoir se promener dans les bois sans avoir à s'inquiéter des gardes-chasse?
Tu ne crois pas que Mr. Rabbit a pu nous suivre en douce pour voir où nous allons?
Jamais de la vie, a répondu mon père. Il est rentré dîner. Je ne pouvais m'empêcher de penser que si moi, j'avais été Mr. Rabbit et que j'avais vu deux personnages suspects traîner devant mon précieux bois à faisans, je ne serais sûrement pas rentré chez moi pour dîner. Mon père a dû sentir mes craintes, car il a pris ma main dans la sienne et j'ai senti la chaleur de ses doigts qui se refermaient. Main dans la main, nous avons poursuivi notre chemin à travers les arbres en direction de la clairière. Nous y sommes arrivés en quelques minutes.
« C'est là qu'on a jeté les raisins secs, » a dit mon père.
J'ai regardé à travers les buissons, la clairière paraissait d'une pâleur laiteuse sous la lune.
« Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?»«
On reste ici et on attend, » m'a répondu mon père. Je devinais tout juste son visage sous la visière de sa casquette, ses lèvres pâles, ses joues empourprées, ses yeux étincelants.
« Ils sont tous perchés dans les arbres, papa ?»«
Oui, tout autour de nous, ils vont jamais très loin. »«
Je les verrai si j'éclairais les branches avec ma torche ?»«
Non, » m'a-t-il répondu, « ils se perchent très haut et se cachent derrière les feuilles. » Nous sommes restés là, à attendre que quelque chose se passe. Rien ne se passa. Les bois étaient très calmes autour de nous. « Danny, » dit alors mon père.
« Oui, papa. Je me suis toujours demandé comment un oiseau arrivait à garder l'équilibre, en dormant sur une branche.
« Je ne sais pas. Pourquoi ?»«
C'est très bizarre, » a-t-il dit.
« Qu'est-ce qui est bizarre ?»«
Il est bizarre qu'un oiseau ne tombe pas de son perchoir quand il s'endort. »
« Si nous, nous étions perchés sur une branche et que nous nous endormions, nous tomberions tout de suite, non ?»« Les oiseaux ont des griffes et de longs doigts, papa. » J'imagine que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à se tenir.
Je sais bien, Danny, mais je ne comprends quand même pas comment leurs pattes continuent d'agripper leur perchoir quand l'oiseau est endormi. Quand on s'endort, tous les muscles se relâchent.
J'ai attendu qu'ils poursuivent.
J'étais simplement en train de penser, a-t-il repris, que si un oiseau parvient à garder l'équilibre quand il dort, alors il n'y a aucune raison pour que des somnifères le fassent tomber.
Il est drogué. S'il est drogué, il doit tomber.
Mais est-ce que ce n'est pas seulement un sommeil plus profond? Dans ce cas, pourquoi tomberait-il simplement parce qu'il dort plus profondément?
Il y a eu un silence lugubre.
J'aurais dû faire des tests avec des coqs, a ajouté mon père.
Tout à coup, j'ai eu l'impression que le sang s'était retiré de ses joues. Son teint était si pâle que je me suis demandé s'il n'allait pas s'évanouir.
Mon père, lui, faisait toujours des essais avec des coqs avant d'appliquer une méthode.
À ce moment, nous avons entendu un bruit sourd derrière nous.
« Qu'est-ce que c'était ?» j'ai demandé.
« Chut !»
Nous sommes restés sans bouger, l'oreille tendue.
« Ch'toum !»
Encore ce bruit, j'ai dit.
C'était un son étouffé, comme celui produit par un sac de sable qu'on aurait laissé tomber par terre.
« Ch'toum !»
« Les faisans !»
me suis-je écrié. « Attends,
C'est sûrement les faisans, papa. Ch'tomp, ch'tomp.
Tu as peut-être raison, Danny. Nous avons allumé nos torches et couru vers l'endroit d'où provenaient ces bruits.
C'était où ? A demandé mon père. Là-bas, papa ! Il y en a eu deux là-bas !
J'aurais pensé que c'était plutôt de l'autre côté.
Regarde bien ! Ils peuvent pas être loin.
Nous avons cherché pendant environ une minute.
En voilà un ! A dit mon père.
Quand je l'ai rejoint, il tenait un coq magnifique dans ses deux mains. Nous l'avons examiné de près avec nos torches.
Après ce qu'il a avalé, il est sur un petit nuage, a dit mon père. Il se réveillera pas avant une semaine. Ch'tomp ! En voilà un autre, j'ai crié. Ch'tomp ! Ch'tomp ! Encore deux ! S'est exclamé mon père. Ch'tomp ! Ch'tomp ! Ch'tomp ! Ch'tomp ! Ch'tomp ! Ch'tomp ! Bon sang ! A dit mon père. Ch'tomp ! Ch'tomp ! Ch'tomp ! Ch'tomp ! Ch'tomp ! Ch'tomp !
Tout autour de nous, les faisans commençaient à pleuvoir des arbres. Nous avons couru comme des fous dans l'obscurité, le faisceau de nos torches balayant le sol.
Ch'tomp ! Ch'tomp ! Ch'tomp ! Ch'tomp !
Ces trois lames étaient presque tombées sur la tête. J'étais sous l'arbre au moment de leur chute, et je les ai tout de suite trouvés par terre, tous les trois, deux coqs et une poule. Ils étaient inanimés, je sentais leur tiédeur et la douceur extraordinaire de leurs plumes sous mes doigts.
« Où je les mets, papa ? Pose-les par terre, Danny, mets-les les uns sur les autres, là où il y a un peu de lumière. »
Mon père se tenait debout au bord de la clairière, dans la lumière de la lune qui ruisselait sur lui. Une poignée de faisans dans chaque main, son visage s'illuminait. Il avait de grands yeux brillants, magnifiques. Il regardait autour de lui comme un enfant qui vient de découvrir que le monde entier est fait de chocolat.
« Ch'tomp, 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 ch'tomp !»« Il y en a trop, j'ai dit ! C'est une splendeur !» s'est-il écrié.
Il a laissé tomber les oiseaux qu'il tenait et a couru en chercher d'autres.
« Ch'tomp, 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 ch'tomp !»
Il était facile de les retrouver à présent. Il y en avait un ou deux allongés sous chaque arbre. J'en ai rapidement ramassé six autres, trois dans chaque main, et je me suis dépêché de les ajouter aux autres. Puis encore six, et encore six après cela. Et pourtant, ils continuaient de tomber. Mon père, maintenant, était pris d'une véritable frénésie, comme dans un tourbillon, courant partout sous les arbres comme un fantôme pris de folie. Je voyais le faisceau de sa torche pivoter en tous sens, et chaque fois qu'il trouvait un oiseau, il poussait un petit cri de triomphe.
« Ch'tomp, ch'tomp, ch'tomp !»« Hey, Danny !»
a-t-il soudain crié.
« Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe, papa ?»« À ton avis, que dirait le grand Victor Hazel s'il pouvait voir ça ?»« N'en parle pas !»
Pendant 3 ou 4 minutes, les faisans ont continué de tomber. Puis, brusquement, c'était terminé.
« Continue à chercher !» a crié mon père. « Il y en a plein d'autres par terre !»« Papa, tu crois pas qu'on devrait y aller pendant que ça se passe bien ?»« Sûrement pas » a-t-il protesté. « Jamais de la vie !»
Nous avons continué à chercher. À nous deux, nous avons regardé sous chaque arbre, dans un rayon de 100 mètres, autour de la clairière, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et je crois bien que nous les avons presque tous retrouvés. Là où nous les avions rassemblés, il y avait à présent un tas de faisans aussi haut qu'un feu de joie.
C'est un miracle, disait mon père. Un miracle absolu.
Il les contemplait dans une sorte de transe.
Tu crois pas qu'on devrait en prendre 6 chacun et filer d'ici ? J'ai demandé. Je veux les compter, Danny. Papa, pas maintenant, je dois les compter. On pourrait pas faire ça plus tard ? 1, 2, 3, 4.
Il a commencé à compter très soigneusement, ramassant les faisans un par un et les déposant avec précaution d'un côté de la clairière. La lune était juste au-dessus de nos têtes à présent, et toute la clairière était brillamment éclairée. J'avais l'impression de me trouver dans la lumière de phares puissants.
116, 117, 118, 119, 120 ! S'est-il écrié. C'est un record absolu !
Je ne l'avais jamais vu aussi heureux de sa vie.
Le plus grand nombre de faisans que mon père ait jamais attrapé, c'était 15. Et après ça, il a pas dessoulé pendant une semaine, m'a-t-il dit. Mais ça, ça, mon petit Danny, c'est un record du monde. Je m'en doute. Et c'est toi qui as fait ça, Danny. Tout ça, c'est ton idée, depuis le début. Ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, papa. Mais si. Et tu sais ce que ça fait de toi, mon garçon ?
Ça fait de toi le champion du monde !»
Il a soulevé son pull et détaché les deux sacs de coton enroulés autour de son ventre.
« Voilà le tien » m'a-t-il dit en me donnant un des sacs. « Dépêche-toi de le remplir !»
La lumière de la lune était si intense que je parvenais à lire ce qui était imprimé sur le sac. « J.W. Crump Moulin de Keston, Londres. SW 17. »
« Tu ne crois pas que ce garde aux dents jaunes pourrait nous épier en ce moment même derrière un arbre ?» j'ai demandé.
« Aucun risque, » a répondu mon père. « S'il est quelque part, c'est à la station-service pour nous attendre et nous prendre sur le fait quand on reviendra, avec le butin. »
Nous avons commencé à charger les faisans dans les sacs. Ils étaient doux, le cou flasque, la peau tiède sous les plumes.
« Nous ne pourrons jamais porter tout ça jusqu'à la maison, » j'ai dit.
« Bien sûr que non.
Il y a un taxi qui nous attendra sur le chemin de terre, devant le bois. »
« Un taxi ?»
Mon père faisait toujours appel à un taxi quand il avait beaucoup de faisans à transporter.
« Pourquoi un taxi, pour l'amour du ciel ?»«
C'est plus discret, Danny. Personne ne sait qui se trouve dans un taxi, à part le chauffeur. »«
Quel chauffeur ?»«
Charlie Kinch. Il est trop content de nous aider. »«
Il est au courant pour le braconnage ?»«
Le vieux Charlie Kinch
Bien sûr qu'il est au courant. Il a braconné plus de faisans en son temps que nous n'avons vendu de litres d'essence. »
Nous avons fini de remplir les sacs et mon père a hissé le sien sur ses épaules. Je n'ai pas pu faire la même chose avec le mien. Il était trop lourd pour moi.
« Traîne-le derrière toi, » m'a dit mon père. « Traîne-le par terre. »
Il y avait 60 oiseaux dans mon sac et il pesait une tonne. Mais il glissait facilement sur les feuilles mortes quand je le tirais avec les deux mains, en marchant à reculons. Nous sommes arrivés en lisière du bois et nous avons regardé le chemin de terre, à travers la haie. Mon père a dit
« Charlie !»
très doucement. Et le vieil homme qui se trouvait au volant du taxi a penché la tête à la portière et nous a adressé, à la lueur de la lune, un petit sourire malin en découvrant des gencives sans dents. Nous nous sommes alors glissés à travers la haie, en traînant les sacs derrière nous.
« Salut, salut, salut !» a dit Charlie. « Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ?»